Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 10 février 2021. Bonjour, bienvenue. Les Birmans ont commencé aujourd'hui à descendre dans la rue pour le cinquième jour consécutif, au lendemain d'un raid nocturne de l'armée contre le siège du parti d'Aung San Suu Kyi, une action qui montre la détermination des généraux putschistes face aux appels à rétablir la démocratie. L'ONU a condamné mardi l'usage disproportionné et inacceptable de la force par l'armée birmane qui a mené la semaine dernière un coup d'État. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, va affronter 7 autres candidats à la présidentielle du 21 mars au Congo-Brazzaville, selon le ministère de l'Intérieur. Monsieur Sassou Nguesso sera face notamment à Mathias Zon, 73 ans, ancien ministre des Finances de 1997 à 2002, et Guy Brice Parfait-Kolela, 60 ans, auréolé de sa deuxième place à la présidentielle contestée de 2016. Au Tchad, 15 partis d'opposition ont désigné mardi un candidat unique à l'élection présidentielle du 11 avril face au sortant Idriss Déby Itno. Théophile Bevzoun Bongoro, 55 ans, un néophyte en politique, a été choisi par les chefs des 15 mouvements à la surprise générale par 9 voix contre 5 pour le favori et opposant le plus connu à M. Déby, Saleh Kebzabo. Ces partis réunis pour l'occasion à N'Djamena avaient créé le 2 février une coalition, l'Alliance Victoire, et promis de désigner un seul candidat et un seul programme contre M. Déby. Le Parlement ghanéen a fermé ses portes mardi pour au moins 3 semaines après la découverte de plus d'une centaine de cas de COVID-19 parmi les députés et son personnel. Au moins 17 parlementaires et 151 membres du personnel ont été testés positifs au nouveau coronavirus ces derniers jours. Jeudi dernier, la découverte de premiers cas par dizaines avait déjà obligé les législateurs à réduire leurs réunions à 2 sessions par semaine afin de contrer la propagation du virus. L'armée sénégalaise a indiqué mardi avoir pris 3 bases des rebelles en Casamance dans le sud du Sénégal et récupéré des armes lors d'une offensive lancée fin janvier après des mois d'accalmie dans ce conflit ancien mené, selon elle, avec le soutien de la Guinée-Bissau voisine. L'armée sénégalaise n'a fourni aucune indication sur les pertes de la part de part ou d'autre et aucune évaluation du bilan humain n'est disponible par ailleurs de sources indépendantes. Les officiers sénégalais ont admis que les rebelles disposaient d'autres bases dans la région. De nouvelles manifestations contre l'augmentation du coût de la vie ont eu lieu mardi au Soudan, pays de 40 millions d'habitants, miné par les difficultés économiques. Ces manifestations sont survenues au lendemain de la formation d'un nouveau gouvernement chargé de sortir le pays de la grave crise économique dans laquelle il est empêtré depuis des décennies et qui s'est amplifié après la chute en avril 2019 du régime d'Omar el-Béchir, destitué par l'armée sous la pression de la rue. La crise en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté mardi, dans une déclaration adoptée à l'unanimité de ses membres, son soutien aux nouvelles autorités de transition, saluant une réalisation qui constitue une étape importante dans le processus politique en Libye. Comme il avait déjà fait dans une déclaration précédente adoptée le 28 janvier, le Conseil de sécurité a souligné aussi la nécessité de respecter le cessez-le-feu observé depuis l'automne et de procéder au retrait de toutes les forces étrangères et mercenaires de Libye sans plus tarder. Les indépendantistes du Front Polisario ont affirmé mardi avoir tué 3 militaires marocains la veille lors d'une attaque dans la région de Ouarkiz, dans le sud du Maroc, à proximité du territoire disputé du Sahara occidental. Le Polisario se dit en état de guerre de légitime défense depuis que le Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes dans la zone tampon de Guerguerat, dans l'extrême sud du Sahara occidental, pour chasser un groupe de militants sahraouis qui bloquait la seule route vers la Mauritanie voisine. VOA Afrique Info, nous sommes le mercredi 10 février 2021. En ligne de mire dans ce journal, les forces pro-gouvernementales en Centrafrique ont repris la ville de Boa, c'est dans l'ouest du pays. Au Cameroun, l'auteur du massacre de Koumba, neutralisé par l'armée, il est accusé d'avoir tué 24 enfants. Une majorité de sénateurs ici aux États-Unis a estimé que le procès de Donald Trump était conforme à la Constitution et pouvait se poursuivre lors d'un vote mardi à l'issue d'une première journée d'audience. Jean-Roger Billon revient dans un instant. Nous émettons de Washington.
La suite de nos informations en ce mercredi 10 février, les forces armées centrafricaines ont repris la ville stratégique de Boa à 430 km au nord-ouest de Bangui. C'est ce qu'a annoncé mardi le gouvernement. Le point avec Abdourahmane Dia.
La ville de Boa a été reprise par les forces armées centrafricaines et leurs alliés, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazagui. Les autorités centrafricaines désignent généralement comme forces alliées des militaires rwandais et des paramilitaires russes. Le 17 décembre, 6 des plus puissants groupes armés qui contrôlaient les deux tiers du pays depuis 8 ans se sont alliés au sein de la coalition des Patriotes pour le changement, puis ont lancé une offensive contre le régime du président Faustin Archange Touadéra. Ils avaient pris la ville de Bouar le 27 décembre, jour du premier tour de l'élection présidentielle remportée par le chef de l'État sortant. Bouar, une agglomération d'environ 40 000 habitants, est située sur un axe routier vital reliant Bangui au Cameroun. La ville abrite également le camp Leclerc, le quartier général de l'armée centrafricaine dans la région ouest. Lundi, après 50 jours de blocus, un premier convoi d'aide humanitaire parti du Cameroun est finalement parvenu à Bangui sous escorte des casques bleus.
Au Cameroun, l'armée a annoncé hier dans un communiqué avoir neutralisé l'auteur du massacre des enfants le 24 octobre dernier à Koumba, dans la zone anglophone. Les précisions à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Le chef de bande armée, surnommé général Ebouf de Lao, a été tué au cours d'une opération dans la nuit de dimanche à lundi dernier, a annoncé l'armée camerounaise dans un communiqué lu à la CR TV, la radio à capitaux publics. Général Ebouf de Lao, qui se faisait également appeler The Mirror, avait revendiqué le massacre de 7 enfants dans la ville de Koumba, au sud-ouest du Cameroun. Selon le communiqué signé du capitaine de frégate Serge Atonfak, porte-parole du ministère de la Défense, 4 autres hommes armés ont été abattus lors de cette même opération et plusieurs blessés sont encore en fuite. De sources militaires, un violent accrochage a opposé les forces de défense à un groupe de terroristes. 4 ont trouvé la mort, parmi eux un autre chef de bande armée surnommé T-Boy, qui opérait dans le département de la Mémé en zone anglophone. L'armée précise en outre que ces 2 chefs de bande armée s'apprêtaient à perpétrer d'autres attaques dans la ville de Koumba et localités environnantes. Le 24 octobre dernier, des hommes armés avaient ouvert le feu sur des élèves dans une salle de classe à Koumba, dans la région du sud-ouest. 7 enfants ont été tués et 15 blessés. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le Sénat des États-Unis a entamé hier le second procès de Donald Trump, accusé d'avoir incité ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole le 6 janvier. La Chambre haute a jugé le procès de l'ancien président conforme à la Constitution. Eric Manirakiza.
C'est avec une vidéo juxtaposant des déclarations de Donald Trump et des images de ses partisans faisant irruption violemment au Capitole que les démocrates ont ouvert hier au Sénat leur réquisitoire contre l'ex-président accusé d'incitation à l'insurrection lors de l'assaut du 6 janvier. Les avocats de Donald Trump, dont le mandat présidentiel a pris fin le 20 janvier, défendaient l'argument que leur client ne pouvait pas être jugé par le Sénat puisqu'il n'était plus en fonction à la Maison-Blanche. Mais une majorité de sénateurs ont voté pour que se déroule dans son intégralité le procès en destitution contre M. Trump. 56 sénateurs, dont 6 républicains contre 44, ont soutenu l'argument présenté par les procureurs démocrates. Aujourd'hui, l'accusation puis la défense disposeront chacune de 16 heures réparties sur 2 jours maximum pour présenter leurs arguments. Lundi, les sénateurs auront 4 heures pour poser par écrit leurs questions de parti. Il reviendra également aux sénateurs de trancher lors d'un vote à la majorité simple pour demander ou contester la convocation de témoins ou de preuves supplémentaires. L'accusation aura par la suite 2 heures pour prononcer son réquisitoire et la défense 2 heures pour y répondre. La Constitution impose en revanche une majorité des 2/3 pour un verdict de culpabilité. La barre semble difficile à atteindre et Donald Trump a toutes les chances d'être acquitté, peut-être dès le début de la semaine prochaine.
Claire Morin-Zibourg pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Le président du Nigeria, Muhammad.
Mamadou Bouhari a inauguré hier un projet ferroviaire à 1,96 milliard de dollars reliant la ville de Kano dans le nord à Maradi au Niger. Le gouvernement estime que cette voie ferroviaire de 284 km, approuvée en septembre 2020, est cruciale pour relier le pays au reste de l'Afrique de l'Ouest. À la fin novembre, les autorités ont annoncé que le Nigeria est entré en récession après une contraction de son produit intérieur brut pour le second trimestre consécutif. Lancée il y a bientôt 2 ans à Kara dans le nord du Togo, l'usine de production de fer à béton Steel Cube Togo va bientôt franchir le cap des 1000 emplois directs créés, bénéficiant d'un partenariat public-privé et d'un investissement de 4 milliards de francs CFA de capitaux indiens. Cette usine a pour objectif de recycler et de revaloriser 150 tonnes de ferraille par jour. Au Cameroun, la régionale d'épargne et de crédit a entamé un processus en vue de devenir une banque. L'institution de microfinance a lancé hier une opération publique de vente d'actions en vue, dans un premier temps, d'augmenter son capital social.
Et maintenant, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Port du masque obligatoire, pas de poignée de main et surtout pas d'embrassade, c'est ce qui attend les participants aux Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à l'été prochain pour cause du coronavirus, selon un guide à destination des sportifs publié par les organisateurs. Le document avertit les sportifs qu'ils pourraient être exclus des compétitions s'ils ne les respectent pas. Les sportifs seront testés au moins tous les 4 jours et s'ils sont positifs, ils ne pourront pas participer aux compétitions. Leur séjour au Japon sera limité pour réduire le risque d'infection et ceux qui séjournent au village olympique devront éviter des formes de contact physique inutiles. Ici aux États-Unis, le pilote de l'hélicoptère qui s'est écrasé en janvier 2020 avec à son bord l'ex-star de la NBA, Kobe Bryant, près de Los Angeles, était désorienté en volant dans un épais brouillard. C'est ce qu'ont estimé hier les experts de l'autorité de sûreté des transports. Arazobayan, un pilote de 50 ans, avait indiqué dans un échange radio qu'il allait monter à 1200 mètres pour sortir du brouillard peu de temps avant l'accident, le 26 janvier, causant sa mort, celle de Bryant et de sa fille Diana, âgée de 13 ans, et de 6 autres personnes. Mais au lieu de monter, l'appareil a entamé un virage à gauche et une descente fatale sur une colline de Calabasas. Toujours ici, le Super Bowl final de la Ligue professionnelle de football américain, NFL, et événement télévisuel de l'année aux États-Unis, a été vu dimanche par 96,4 millions de téléspectateurs contre 102,3 millions en 2020. Le 55e Super Bowl a néanmoins été une réussite en streaming, devenant le match de NFL le plus visionné en ligne avec 5,7 millions de personnes en moyenne, en hausse de 65% par rapport à l'an dernier. Le match a été remporté par Tampa Bay devant Kansas City 31-9. Le Cubain Juan Miguel Echevarria a établi la meilleure performance mondiale de l'année à la longueur avec un bond à 8,25 mètres mardi lors de la réunion de Liévin. Comptant pour le circuit mondial en salle, le champion du monde 2018 en salle, âgé de 22 ans, a délogé de la première place du bilan annuel l'Américain Marcus Dendy, auteur d'un saut à 8,21 mètres dimanche dernier à Fayetteville, ici aux États-Unis. Le grec Miltiadis Tentoglou a terminé à la deuxième place avec 8,21 et figure désormais à la deuxième place du bilan mondial à égalité avec Dendy.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, Vio Afrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOAfrique et VOAfrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Dion, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Tchad. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, l'opposition va à cette consultation en rang dispersé. L'Alliance Victoire, qui comprend 16 partis, a proposé un candidat unique à la personne de Maître Théophile Bongoro, un nouveau venu dans l'arène politique pour faire face au président Idriss Déby Itno. Dans le même temps, trois opposants ont été déjà investis, candidats par leurs partis respectifs. L'Alliance de l'opposition risque donc au finish de voler en éclats. André Kotbajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Maître Théophile Bongoro, un jeune notaire âgé de 54 ans qui a fondé son parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad en 2018, a été élu par ses pairs pour être candidat de l'Alliance Victoire face à l'opposant Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour le renouveau et la démocratie. Maître Théophile Bongoro mesure déjà le poids de la responsabilité qu'il porte désormais.
Une fois comme que l'opposition s'est accordée sur un candidat, peut-être pas toute l'opposition, mais la sérieuse, ça nous met devant nos responsabilités en réalité. Je mérite plutôt l'immensité de la tâche. Quand on avait sorti les premiers textes, certains ne sont pas reconnus dans son parti. Libre à eux de s'organiser comme ils veulent, mais nous, on est 16 partis assez représentatifs parce que quand vous avez vu la composition, c'est pas petit et que la liste est ouverte, on a dit cela.
Saleh Kebzabo, député à l'Assemblée nationale et ancien chef de file de l'opposition, n'a pas fait l'unanimité. Sur les 16 partis politiques de l'opposition sientaire de la plateforme Alliance Victoire, il n'a recueilli que 5 voix contre 9 pour son challenger. Il prend acte de ce processus.
Je ne prends pas ça pour une défaite. Je crois tout simplement que le premier exercice démocratique de cette élection vient d'avoir lieu au niveau de l'Alliance Victoire. 16 partis se sont organisés, vont continuer de s'organiser. Ils ont là, dans ce premier exercice, cherché à savoir celui qui pourrait porter le mieux leur couleur. C'est ce qui vient d'être fait. On en prend acte et on continue.
Mais ces militants rejettent déjà cette élection. Selon Alexis Passois, assistant parlementaire au bureau de l'UNDR, Maître Théophile Bongoro ne répond pas aux critères.
Il faut avoir une base très solide, il n'a pas d'assise sur le plan national. Et quand on va parler même d'un carnet d'adresse assez fourni, je ne crois pas qu'il fasse le poids plus que Kebzabo. On suppose que l'autre candidat a fait le travail de sous-marin pour payer les autres chefs de parti politique à se mettre avec lui. Nous allons inciter à ce que le président Saleh Kebzabo quitte cette alliance. Nous n'acceptons pas.
Pour Félix Nialbé Romadongar, chef de file de l'opposition et candidat de l'URD Union pour le renouveau et la démocratie, ses compagnons vont trop vite en besogne.
Nous sommes 91. Donc le bon sens voudrait bien que chacun se fasse investir par son parti et que les candidats investis se rencontrent pour discuter d'une candidature unique, si cela peut être possible. Mais ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est un peu de l'égoïsme.
Le porte-parole du MPS parti au pouvoir, Maître Jean-Bernard Padare, qui suit l'actualité politique dans l'Est du pays, sourit en pointe et déclare qu'il n'est pas interdit de rêver.
Si on apporte la démocratie, c'est parce qu'effectivement, on veut qu'il y ait confrontation, et donc on a peur de personne. On est prêt à aller débattre avec n'importe qui devant le peuple qui est souverain et qui est seul juge. Moi, je suis à Paris aujourd'hui. Ils ont représenté Paris, n'ont pas vu leur couleur. Mais nous, on est au contact de la réalité de nos concitoyens. Donc, le mouvement viendra, qui sera jugé crédible.
À ce jour, 4 candidats de l'opposition se sont déjà manifestés pour affronter Déby en avril 2021. D'autres vont encore surgir dans les jours à venir. André Kodumatingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Direction le Sénégal, considéré actuellement comme le principal opposant au président Macky Sall, Ousmane Sonko, leader du parti d'opposition PASTEF Les Patriotes, est accusé de viol. Convoqué cette semaine par la gendarmerie, le député a invoqué son immunité parlementaire pour ne pas répondre à la convocation. Ses partisans ont par ailleurs violemment riposté aux forces de l'ordre, mettant la capitale sénégalaise à feu et à sang durant toute la journée de lundi. Une affaire de mœurs qui est devenue en quelques heures une bataille de rue et d'opinion. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay, nous en dit plus.
Des voitures calcinées, des enseignes françaises vandalisées, une cinquantaine d'arrestations et des dizaines de blessés de part et d'autre. C'est le bilan des affrontements musclés de lundi entre les forces de l'ordre et les militants d'Ousmane Sonko. Baïfal est un sympathisant de l'opposant. Pour lui, cette histoire est une cabale.
Dans cette affaire, Ousmane Sonko est la victime. C'est une bonne personne, une personne vertueuse. Il est victime de ses ambitions politiques. Et malheureusement, en politique, tous les coups sont permis. Pour moi, Sonko reste innocent.
Mustapha porte un intérêt particulier à la politique et ne s'en cache pas. Il est de l'opposition, mais déplore le comportement des militants de Sonko qui ont saccagé des biens publics.
Je vais être clair. Je ne suis pas un pro-Sonko. Je suis un fervent militant du Parti démocratique sénégalais. Cette affaire est rocambolesque et je déplore l'attitude de ces militants. Tous ces biens qu'ils maisons saccagées n'appartiennent pas au gouvernement. Ce n'est pas normal.
Abdouloum est peintre. Il pense qu'il y a de la manipulation dans cette affaire.
Je pense que Sonko n'a rien fait de ce dont on l'accuse. Il est présidentiable, il a un bon profil. Donc je pense que le parti au pouvoir essaie juste de l'écarter. De mon point de vue, ils veulent l'emprisonner. Concernant les saccages et les casses, je ne suis pas du tout d'accord. Les bus nous appartiennent. Ces partisans n'ont pas le droit de saccager les biens d'autrui. Mais quelque part, je le comprends. Ce qui arrive à leur leader est très dur.
Mort lui reste très nuancé. Le doute est semé dans sa tête.
Ce n'est pas du tout bien pour son image, mais personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé. Je préfère être neutre car je ne suis pas témoin des faits.
La gendarmerie, qui a reçu la plainte de la présumée victime, attend la levée de l'immunité parlementaire du député afin de recueillir sa version des faits. Une procédure qui, une fois enclenchée par l'Assemblée nationale, peut durer plusieurs jours. C'est Dina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Gabon, les autorités en charge de la gestion du Covid-19 se disent satisfaites du plan de riposte national. Elles en veulent pour preuve la reconnaissance des organismes internationaux qui encourageraient d'ailleurs le pays à continuer dans cette voie. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiaminze.
Sur le papier et par les canaux de communication officiels, le Gabon est présenté comme un bon élève africain dans sa gestion de la maladie à coronavirus. Mais la perception des citoyens est tout autre. Sophie Ngoussi est secrétaire de direction dans une entreprise privée de Libreville.
C'est très mal géré parce que beaucoup de personnes qui meurent en ce moment ont leur maladie. Est-ce que les deux maladies sont gérées au même moment ou on prend plus en compte le Covid que leur maladie chronique qu'ils ont? Pour les personnes, 1 million d'habitants, 1 million d'habitants, c'est regrettable qu'on en soit là.
Les premiers cas de contamination ont été détectés par le Gabon en mars dernier. Depuis lors, le plan national de riposte contre le Covid-19 reste peu convaincant de l'avis de Tanian Tongon, une mère au foyer.
On ne comprend rien, aucun scientifique ne vient nous expliquer quoi que ce soit. Hein? L'État nous avait promis des masques, il n'y a pas de masques, il n'y a rien.
Pour Tétis Makita, étudiant en fin de cycle, le gouvernement a fait des efforts. Il appartient maintenant aux populations de s'auto-sensibiliser.
Un effort qui est là, qui est consenti, mais les populations elles-mêmes se doivent également de s'instruire, c'est-à-dire de regarder un peu l'impact qu'a la pandémie dans le monde entier et pouvoir également appliquer les mesures de prévention.
Djibril Douania est journaliste. Il propose au gouvernement d'aller au-delà de la simple sensibilisation contre la pandémie.
On doit aller dans la stratégie de l'électrochoc.
Les gens sont fatigués des spots. Ils voient les spots maintenant comme si c'est devenu une publicité à la télé, à la radio. Là maintenant, on doit faire des émissions pointues, interactives. Les gens appellent, on discute, un médecin explique, il démontre. Et puis voilà, ça va nous aider à comprendre. Pourquoi ne pas créer des programmes dans les chaînes nationales ou les chaînes les plus suivies, que ce soit en radio ou en télé?
Confrontés à une inflation sans cesse des cas de contamination au coronavirus, les autorités gabonaises n'écartent pas l'hypothèse d'un nouveau reconfinement. La réaction de Laetitia Mangola, opératrice économique.
Je pense que reconfiner, si le gouvernement insiste que c'est la solution, oui, mais accompagner les populations à survivre, sincèrement, parce que c'est de la survie. Parce que tout est bloqué, quand on est confiné, tout est bloqué. Donc on a besoin que l'État soit avec nous pour nous accompagner. Les commerces sont bloqués, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien.
Le Gabon enregistre à ce jour un peu plus de 11 000 cas positifs, soit 2,5% de sa population, dont 10 797 guérisons et 71 décès. Le gouvernement mise encore sur le bon sens et le civisme des populations avant de durcir son dispositif de précaution sanitaire. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le deuxième procès en destitution de l'ancien président Donald Trump s'est ouvert hier au Sénat. Un procès inédit pour un président qui n'est plus en fonction et dont l'influence politique demeure importante. Voici l'analyse de Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines. Il a été joint par Mohamedou Mfa.
Il a déjà parti, c'est vrai, mais il y a un deuxième élément, c'est de l'empêcher d'être candidat à l'avenir. Donc s'il est considéré coupable, il ne pourrait pas être candidat à la présidence en 2024. Et ça, c'est très important parce que il a l'ambition d'être un candidat une deuxième fois.
Donc, pour vous, il s'agit d'abord d'une affaire politique, c'est bien ça?
Oui, mais aussi, impeachment, ça veut dire qu'il a commis un crime. Il est accusé d'avoir organisé une invasion du Capitole pour empêcher l'élection de son successeur. C'est-à-dire, le Congrès était en train de compter les voix et il a envoyé une foule dans le Capitole pour empêcher ça. C'était un crime d'avoir fait ça.
Selon vous, quels sont les éléments sur lesquels les sénateurs démocrates pourraient s'appuyer pour démontrer qu'il est responsable de cette insurrection?
Mais il y a une vidéo qui montre qu'il a fait un discours devant la Maison-Blanche le 6 janvier avec une grande foule et plusieurs milliers de gens. Il a dit, ils m'ont volé l'élection, c'est moi qui ai été élu, il faut aller au Capitole pour empêcher le Congrès de compter les voix. Parce que c'est faux tout ça. Donc ils ont fait la marche de 15 minutes entre la Maison-Blanche et le Capitole. Ils sont allés, ils ont envahi le Capitole, ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont menacé les sénateurs, les députés, mais ils n'ont pas empêché le compte final des voix et Biden a été élu officiellement.
Alors étant donné que Donald Trump n'est plus président, pourquoi, selon vous, est-ce que ceux qui se plaignent ne saisiraient pas la justice, mais préfèrent passer par le Sénat?
Parce que le Sénat, le seul élément qui reste, est-ce qu'il peut être candidat encore une fois à l'avenir? Et il y a un élément dans la Constitution sur la question de l'empêchement. Si le Sénat dit qu'il est coupable, il ne pourrait plus être candidat à la présidence. Et ça, c'est très important, parce que tout le monde sait qu'il a l'ambition d'être un président une deuxième fois.
Quelles sont les chances que l'ancien président soit impeached pour une seconde fois?
Pour avoir impeachment, il faut 2/3 du Sénat. Au Sénat, c'est presque 50-50 maintenant. Tous les démocrates vont voter coupables. Mais il faut 17 républicains pour voter coupable et je ne crois pas qu'ils vont arriver à avoir 17 républicains. Trump reste populaire avec un grand nombre d'Américains. Donc les sénateurs, eux aussi, voudraient être réélus en 2024.
Alors vous l'avez dit, hein, l'une des conséquences pour le président Trump serait qu'il ne se représenterait pas. Est-ce qu'il y a une autre conséquence sur le jeu politique américain de manière générale?
L'influence de Trump va continuer. Beaucoup de monde dit que le parti républicain maintenant c'est le parti de Trump et c'est lui qui commande. Donc nous allons entendre la voix de Trump pendant plusieurs années et ça va perturber la vie politique.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Dion, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet bioafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.